Radio Okapi.
Le médecin chef de division provinciale de la santé au Sud Kivu tire la sonnette d'alarme face à plusieurs épidémies, dont la rougeole, le choléra et le monkeypox. Plus de 26 000 cas cumulés ont été enregistrés, provoquant des décès, alors que les moyens restent très limités pour assurer la prise en charge et organiser la riposte. En Ituri, plus de 200 militaires de l'unité Tigre des FARDC ont clôturé à Diango une formation de combat et de droit international humanitaire assurée par la MONUSCO, cela pour renforcer leurs capacités dans la lutte contre les groupes armés. Après une visite d'inspection sur la route nationale numéro 4, axe Ituri, le ministre provincial des Travaux publics de la Tchopo, héritier d'Ikaka, alerte sur la forte dégradation de ce tronçon. Il reviendra sur les difficultés des circulations enregistrées ces dernières semaines, puisqu'il est notre invité. Bonjour à tous. Le Sud Kivu est confronté à diverses épidémies, dont le choléra, la rougeole et le monkeypox ou variole du singe. Cette annonce vient du médecin chef de division provinciale de la santé. Il affirme aussi que 164 décès ont déjà été enregistrés pour la rougeole, 17 pour le monkeypox et 75 pour le choléra. Joint par Jean Kassami, docteur Aimé Alingo Odoudou brosse les tableaux épidémiologique de la province du Sud Kivu depuis Uvira.
De la première semaine à la 43e semaine, la province a pu notifier 7961 cas de rougeole et 164 décès, soit une létalité de 2,6% dans 21 zones de santé. Pour les mpox, 19011 cas, 17 décès, soit une létalité de 0,09% dans 34 zones de santé. Pour le choléra, la province a pu notifier 10975 décès, soit une létalité de 0,69% dans 16 zones de santé. Actuellement, la province est à haut risque de l'épidémie de CVD-PVD. Nous sommes dans le préparatif d'une riposte vaccinale contre cette épidémie confirmée au labo. Le grand défi, c'est la prise en charge. Vous connaissez le contexte que nous traversons. Il y a vraiment un problème de la disponibilité de médicaments pour la prise en charge des enfants de moins de 5 ans, pour même organiser des ripostes.
Au Kasaï oriental, la rougeole refait surface à Mbujimayi. 18 cas suspects de rougeole, des enfants de moins de 5 ans ont été notifiés dans quelques zones de santé de la province à la 43e semaine épidémiologique. Actuellement, les cumuls des cas suspects est de près de 150 cas. D'après le ministre provincial de la Santé, 5 zones de santé les plus touchées sont actuellement Mouya, Mpokolo, Mukumbi, Kasansa et Lukeleng. Et pour faire face à cette recrudescence des cas, Dr Daniel Kazadi Chilumbai affirme que les équipes des zones de santé multiplient la surveillance et le renforcement de la couverture vaccinale. Dr Daniel Kazadi, ministre provincial de la Santé, a été joint au téléphone par Esther Dalafina.
Cette situation a été pour nous très inquiétante dans la mesure où c'était quand même un pic les plus élevés en fait de l'année. Alors, quoique ça soit des cas de présomption de suspicion, mais quand même, ce sont des cas qui ont répondu aux caractéristiques pratiquement de santé publique concernant la maladie de rougeole. À la semaine 43, le cumul des cas suspects est arrivé jusqu'à 159. Et pour tous ces cas-là, nous sommes dans l'attente pratiquement des résultats pour la majorité des cas. Chaque fois qu'il y a un suspect, on fait des prélèvements qu'on expédie au laboratoire d'INRB à Kinshasa. Cette situation, nous l'avons qualifiée d'inquiétante parce que si nous prenons également les deux semaines passées, notamment les semaines 41 et 42, nous nous rendons compte que semaine 41, nous étions à 7 cas, 42, 3 cas, et à la 43e semaine, nous sommes à 18 cas. Et même les échos de la 44e semaine, c'est sous réserve de la réunion d'analyse qui va bientôt avoir lieu. Ces échos montrent également que les cas sont toujours assez élevés, même si on n'a pas de pic de la semaine 43. Les actions qui sont entreprises, c'est d'abord d'intensifier la surveillance au niveau des aires de santé qui notifient régulièrement les cas.
Dans un autre chapitre, à Lubumbashi, les eaux du bassin de rétention de l'entreprise minière CDM située dans la commune annexe se sont échappées hier mardi. Conséquence, les routes sont inondées, y compris le marché Moïse du quartier Kassapa. Les autorités ont sommé les responsables de cette entreprise minière de tout faire pour trouver une solution et épargner ainsi la vie des nombreuses personnes. Le récit de Jean Gandou est rendu par Alain Hong.
C'est un flot qui est parti de l'entreprise minière CDM. Ces eaux se sont répandues sur les différentes artères, envahissant même certaines parcelles et le principal marché du coin, obligeant les vendeurs à ne pas étaler leurs marchandises. De cette entreprise, il ressort que le bassin de rétention d'eau a cédé, laissant échapper les eaux contenant de l'acide. Alerté, le maire intérimaire de Lubumbashi et le gouverneur se sont rendus sur place pour s'en rendre compte. Il a été demandé aux responsables de l'entreprise de tout faire pour trouver une solution à ce drame. Au regard de l'ampleur des dégâts, le gouverneur Martin Kazembe a fait des recommandations suivantes aux responsables de l'entreprise.
Prenez toutes les dispositions, cherchez des stratégies. Comment boucher là où il y a fuite ? Vous mettez de la chaux également aussi pour limiter les dégâts.
Certains habitants redoutent que ces eaux polluées n'atteignent d'autres rivières qui servent les riverains pour différents travaux. Déjà, certaines personnes se plaignent de ce que ces eaux contenant de l'acide ont touché leur potager. Pour prévenir le danger, quelques ONG œuvrant dans le domaine environnemental appellent la population à s'abstenir de consommer les poissons qui pourraient être trouvés morts et même d'acheter les poissons qui pourraient se retrouver sur le marché à vil prix.
En Ituri, plus de 200 éléments des FARDC de l'unité Tigre ont clôturé ce mercredi une formation aux tactiques de combat et au droit international humanitaire. Cette formation, qui était assurée par les casques bleus de la MONUSCO, vise à renforcer les capacités opérationnelles des FARDC dans leurs opérations contre les groupes armés en Ituri. Martial Kizabiamungu.
D'ici octobre au 5 novembre, pendant un mois, plus de 200 militaires des FARDC de la compagnie Tigre ont suivi plusieurs formations et recyclages, notamment sur les démontages et montages de l'arme AK-47, comment attendre ou se comporter en cas d'embuscade dans une zone rouge. Les instructeurs des palais indonésiens et bangladais de la MONUSCO ont également appris à ces soldats la maîtrise du champ de bataille, les techniques de combat sans armes et aussi les droits internationaux humanitaires. Pour la MONUSCO, cette formation prouve sa détermination à accompagner les FARDC dans les opérations militaires contre les groupes armés qui commettent les exactions contre la population à l'Ituri. Lors de la cérémonie de remise des brevets, ce mercredi à Diango, le gouverneur des provinces a loué la coopération militaire entre la MONUSCO et les FARDC. Le général Johnny Luboyankanchama a exhorté les bénéficiaires à suivre l'exemple louable de leurs compagnons d'armes qui sont déjà sur le terrain pour combattre l'ennemi. Des retours de Diango, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, un notable de Buito, dans le territoire de Rutshuru, plaide pour une assistance urgente en faveur de la population impactée par la guerre dans cette entité. Isaac Kibira, fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur à Bambo, en déplacement à Beni, réagit face aux conséquences de la crise sécuritaire qui affecte cette zone. Plus particulièrement, les groupements de Bukombo, Bambo et leurs environs. Depuis plusieurs semaines, la zone est le théâtre des combats opposant l'AFC 123 au Wazalendo du collectif des mouvements pour le changement CMC Nyatura. Les villages entiers sont incendiés, des champs rasés, des gens sont blessés et tués parmi les civils. Il craint que ceci n'entraîne une autre crise alimentaire dans cette partie de la province. Suivons ces propos d'Isaac Kibira.
Chaque salongo du lundi, ils sont en train de couper sauvagement toutes les cultures se trouvant le long de la route entre Bambu Tongo, Bambu Tshishishe Tibirizi et Bambu Mushababwe Katsiru. Les sous-prétextes comme quoi ils sont en train de chasser la brousse pour faire face aux embuscades tendues par les Wazalendo. Pendant que cette population déplacée n'a pas d'assistance parce que les humanitaires ont peur d'accéder dans la zone, imaginez-vous, le lundi sont allés dire à la population de Katsiru et Bukombo d'aller abattre tous les bananiers qui se trouvent au niveau de Sisa. Arrivés là-bas, ils sont tombés dans une embuscade tendue par les Wazalendo. Alors, il y a eu des affrontements qui ont causé plus de 30 blessés graves des civils. Alors, nous craignons comme d'autres civils aussi seraient morts pendant ces échanges de tirs. Nous demandons en tout cas à la communauté internationale de s'impliquer au gouvernement congolais, de faire tous les moyens pour que la guerre prenne fin et que les auteurs qui sont sont en train de violer les droits qui lui répondent de ces actes criminels jugés à la population qui n'a pas les moyens de se défendre.
L'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale et celle du rapporteur adjoint fixée au jeudi 13 novembre en cours. Cette annonce intervient alors que plusieurs députés, mais aussi des acteurs sociaux, se disent préoccupés par le retard de l'examen et de l'adoption de la loi des finances 2026 à moins de 45 jours de la fin de cette session ordinaire, essentiellement budgétaire. Certains parlementaires contactés par Radio Okapi indiquent que la loi sur les finances publiques accorde 60 jours aux deux chambres du Parlement pour examiner le budget. Le point avec vous, Grâce Amzati.
Pour le député Christian Mwando, président du groupe parlementaire de l'opposition Ensemble pour la République, ce retard est dû à la distraction des pétitions créées par l'Union Sacrée dès le début de cette session. Cependant, il affirme que le budget doit être examiné coûte que coûte.
C'est une obligation, parce que si le budget n'est pas examiné, le pays n'aura pas les moyens de fonctionner. Et ça, on ne peut pas le permettre. À défaut, si ce n'est pas fait à temps, je crois que l'Assemblée nationale, le président qui sera élu, a la possibilité de convoquer une session extraordinaire pour pouvoir traiter ça hors délai.
De son côté, le député Gary Sakata de l'Union Sacrée estime que ce retard n'est pas du tout dramatique. Il explique selon lui ce qui peut arriver.
Il y a certaines limites fixées par la LOFIP qui donne à l'Assemblée nationale un délai de 40 jours maximum à dater du dépôt du projet de loi pour adopter les textes qui a été déposé devant elle. Et ensuite, l'Assemblée nationale envoie les textes au Sénat qui dispose d'un délai de 20 jours maximum pour le même exercice. Quoi qu'il en soit, si le Parlement ne vote pas la loi budgétaire pendant la durée de la session ou au plus tard à la fin de l'année civile, le président de la République sera dans l'obligation de mettre en œuvre le projet tel que déposé par le gouvernement.
C'est donc après l'élection et l'installation du nouveau président le 13 novembre que les travaux sur les budgets pourront commencer.
Dans la province du Maniema, le député Théophile Bouléli reste au poste de vice-président de l'Assemblée provinciale. La motion de déchéance lui adressée n'a pas convaincu la grande majorité des députés provinciaux de cet organe délibérant. Les trois députés membres de sa famille politique lui reprochaient un cumul des postes. On écoute les explications des Papi Omeonga, rapporteur de l'Assemblée provinciale au micro de Florence Kizalunga.
Il y a eu plénière. Aujourd'hui, c'était l'examen et l'adoption de la pétition qui a été déposée au fait d'obtenir la déchéance de l'honorable vice-président, honorable Théophile Bouléli Docte. Il y a trois collègues qui ont déposé la pétition contre lui pour qu'il soit déchu et qui l'ont reproché un certain nombre de griefs. Et pendant la plénière, ils ont présenté et on a débattu. Et à la fin, on a trouvé que la majorité des députés n'ont pas appuyé cette pétition-là. C'est pour cela qu'il y reste, il maintient son poste de vice-président de l'Assemblée provinciale du Maniema. Pendant les votes, on était 21. Et sur les 21, il y a 17 qui ont voté contre la pétition. Il y a un qui s'est abstenu et les trois qui ont appuyé la pétition. C'est là qu'il a reçu 17 sur 21 présents. On lui reproche de, il s'attribue beaucoup de postes et ceci, tout ça. Et ça, c'est pas vraiment un problème par rapport à ses attributions au niveau de l'Assemblée provinciale. Les trois collègues qui ont déposé la pétition, ce sont ses camarades de parti. Et c'est un problème qui devait être réglé dans leur famille politique et non au niveau de l'Assemblée.
Dans la Tchopo, Didier Lomoyo Itekou, vice-gouverneur de la province, est appelé à assurer l'intérim du gouverneur de province et ce jusqu'au verdict que la Cour constitutionnelle va réserver à son recours. Ceci pour éviter le blocage de fonctionnement de l'exécutif, souligne le message officiel du vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Rappelons qu'après sa déchéance, suite à une motion de défiance le 27 octobre dernier, Paulin Lendongolia avait saisi la Cour constitutionnelle pour obtenir l'annulation de cette sanction qu'il juge illégale. Toujours en politique, l'opposant Jean-Marc Kabundo dénonce la mauvaise gouvernance du pays et l'enrichissement illicite de ceux qui gouvernent la RDC au détriment du peuple qui croupit dans la misère. Le président du parti Alliance pour les changements le disait hier au cours de son point de presse animé dans sa résidence. Après avoir décrit la situation désastreuse de la sécurité du pays, il a demandé au président de la République de convoquer un dialogue national inclusif comme solution à la crise crise sécuritaire et humanitaire que traverse la RDC. Mettons-nous ensemble pour mettre fin à cette guerre, a déclaré l'opposant politique qui n'a pas épargné des critiques négatives. Le pouvoir, le régime de Kinshasa, loin d'être différent du régime dictatorial de Joseph Kabila, qui l'a combattu. Jean-Marc Kabound est au micro de Jeff Ngoy.
Je suis parmi les gens qui ont combattu Kabila farouchement. J'ai hissé les drapeaux de l'UDPS. J'ai été l'opposant farouche dans le village natal de Kabila. Ce qui n'était pas donné à tout le monde. Donc aujourd'hui, je ne peux plus continuer à faire le procès Kabila. Le monsieur là, il a fait ce qu'il a fait. Il a laissé le pouvoir. Je crois qu'il est temps de l'oublier. Pour moi, nous sommes dans un procès aujourd'hui contre Félix Tshisekedi. Parce qu'il gère mal. Il gère exactement comme faisait Kabila. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas nier mon propre combat. Je ne peux pas nier ce que j'ai fait hier. J'ai combattu Kabila parce qu'il gérait mal.
Actualité internationale.
Le Tchad observe avec attention l'évolution du conflit au Soudan voisin, outre un probable afflux de réfugiés s'ajoutant à près d'1,5 million de Soudanais sur son territoire. La prise de la capitale du Darfour Nord par les FSR du général Hemeti risque d'accentuer les tensions internes et les facteurs externes de déstabilisation.
L'invité.
Notre invité est héritier Likaka, ministre provincial en charge des travaux publics et infrastructures de la province de la Tshopo. Il a effectué lundi dernier une visite d'inspection sur la route nationale numéro 4, axe Ituri, à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Kisangani. Il s'exprime sur le mauvais état de ce tronçon routier au cours de ces dernières semaines. Il s'entretient avec Jacques Moukonkolé.
Monsieur le ministre provincial en charge des travaux publics et infrastructures, bonjour.
Bonjour.
Monsieur le ministre, vous revenez d'une mission sur la RN4 à une cinquantaine de kilomètres de Kisangani. Quel en était l'objectif?
Merci. Depuis notre avènement au niveau des ministères des ITPR, nous avions trouvé la route RN4 sur un projet déjà. Les chefs de l'État avaient lancé pour la réhabilitation des 730 quelques de kilomètres de Kisangani jusqu'à Beni. La société CCC qui est le propriétaire de ces projets-là. Nous avions constaté que l'entreprise est en train d'évoluer, bien qu'il n'y a pas de tortues, mais sur la qualité, ça va. Et le ministre national à l'époque, Kizaro, avait donné l'instruction à l'entreprise.
Quelles sont ces instructions?
Si l'entreprise trouve un point chaud, ce qui s'en allait jusqu'à Bafoussende, elle est censée d'intervenir plus vite possible. C'est à cette vision-là que nous sommes entrés aussi de veiller sur le temps de la route. Notre descente, récente descente ici, c'était pour essayer de booster l'entreprise, de garder toujours le temps de la route, parce que vous n'êtes pas sans ignorer, ça fait presque une semaine, il y avait au niveau des 43, PK43 et PK59, la route était coupée. Et aussi, partant des instructions que le ministre avait laissées, nous avions aussi essayé de faire voir à l'entreprise CCC, afin qu'ils puissent exécuter plus vite possible les points qui étaient à délabrement.
Alors, sur place, comment avez-vous apprécié ce qui a été fait?
Nous étions très satisfaits de voir qu'après notre demande que nous avions formulée à l'entreprise, lundi passé, nous étions sur terrain, nous avions constaté que l'entreprise avait exécuté à bon et due forme les deux points chauds qui étaient à problème. Problème, bien qu'ils ont traité d'une manière un peu superficielle, mais il y avait des instructions fermes que nous avions données à l'entreprise.
Quelles sont ces instructions?
De traiter et de faire une solution durable.
Monsieur le ministre, que ça a été fait justement?
D'abord, en premier lieu, c'était d'abord de couvrir, de faire des purges pour découvrir des points là où il y avait des bourbiers, de faire des rechargements avec des limonites pour faciliter d'abord la population. Mais la solution durable, c'est déplacer de bises, parce que là sont des endroits où il y a la réunification d'eau. On appelle ça l'île des Taïwèdes, là où il y a la réunification d'eau. Il faut casser la route pour placer des bises. C'est déjà quelque chose qu'on est en train de préparer. Au plus tard, la fin de cette semaine, déjà on va placer des bises dans ces deux endroits-là.
Peut-on dire qu'actuellement la circulation est maintenant fluide?
Actuellement, je vous parle, la route déjà est praticable sur ces deux points-là.
Pourquoi la société en charge de cette route n'intervient-elle pas au moment opportun? On attend qu'il y ait grincement des dents, que les gens crient pour qu'on agisse.
C'est une bonne question. Vous devez savoir que les projets ici se déplacent de 700 kilomètres. Qu'une seule entreprise est en train d'exécuter. Mais selon le planning que la société CCC nous a brandi, c'est d'abord de commencer au niveau de P413 jusqu'au niveau de P436 à une distance au moins de 22 km que l'entreprise est en train d'accélérer. Vous étiez peut-être sur le terrain, vous avez vu les points chauds que l'entreprise est en train de faire. Il y a des constructions, des dallons, des ponts, il y a au moins plus de 15 dallons. Ils ont déjà presque tout terminé avec les dallons. Ça reste que deux ponts, au plus tard, la fin de ce mois ici, ils vont déjà terminer. Donc, la ville de Kisangani, ou bien la province de la Tchopo, au mois de janvier, déjà, l'entreprise, elle va déjà commencer avec l'asphalte au niveau de PK13 jusqu'à PK36. C'est pourquoi vous allez voir que l'entreprise, elle est concentrée sur 22 km pour terminer définitivement. Mais s'il y a toujours un point qui dérange, nous sommes aussi disposés, nos numéros sont presque à la portée de tout le monde, s'il y a des problèmes, pour qu'ils nous fassent parvenir afin que l'entreprise puisse intervenir.
Monsieur le ministre provincial de ZTPR dans la Tchopo, merci.
Et c'est par ici que prend fin ce journal coordonné par Élisée Chikota sous la supervision d'Alain Hirung. Pierre Diassinoir était à la technique et Jocelyne Moussaou à la présentation. Merci de nous avoir suivis.